Et donc, quelques mots sur Intel, qu'on a laissé triomphant sur le marché des microprocesseurs après avoir abandonné les mémoires. Que leur est-il arrivé depuis? Eh bien, des choses très positives et des choses moins positives. Sur le marché des microprocesseurs pour PC, eh bien, la position dominante, enfin, leur position dominante n'a jamais été remise en cause depuis. Personne n'a jamais réussi à les déstabiliser. AMD existe toujours et a même connu assez récemment des records en termes de bénéfices, mais en fait, ils sont toujours aussi dominés sur le marché. Des microprocesseurs, ce qui leur a permis de faire décoller leur chiffre d'affaires, on aura l'occasion d'y revenir, c'est plutôt le côté carte graphique, puisqu'en fait, ils ont, il y a un certain temps, hein, c'était au milieu des années 2000, ils avaient racheté le deuxième fabricant mondial de cartes graphiques, qui était ATI. Et donc, or, on va voir pourquoi les ventes de processeurs graphiques ont connu un décollage très impressionnant ces dernières années. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas rivaliser avec Intel? Bah, d'abord, ils ne peuvent pas rivaliser en termes de recherche et développement. En 2017, ils étaient autour de 1 milliard de dollars de R&D. Alors c'est vrai que ça a beaucoup décollé, puisque bah, leurs ventes augmentant, leurs bénéfices augmentant, ils ont consacré de plus en plus de ressources à la recherche et développement. Mais on voit que bah, d'une part, c'est en partie de la recherche sûre et sûrement de façon plutôt dominante sur bah, la partie graphique. Hein. Alors oui, j'ai mis les termes un hein, GPI, ça veut dire Graphic Processing Unit et CPU, Computing Processing Unit. Donc c'est plutôt sur la partie graphique, je pense qu'ils ont mis plus de moyens. Et chez Intel, c'est 16 milliards de recherche et développement, donc en 2023. Et puis, ils ne peuvent pas non plus rivaliser en termes de production. Alors, même si de ce point de vue-là, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, AMD ne fabrique pas ces produits. Donc, à la limite, on pourrait dire, bah, si jamais ils utilisent toutes les capacités de production, enfin, une grosse partie des capacités de production des sous-traitants qui fabriquent les composants électroniques, bah oui, ils pourraient fabriquer autant de microprocesseurs qu'Intel, c'est vrai. Bah voilà, pour mobiliser comme ça des quantités aussi énormes de systèmes de production, il faut quand même donner quelques gages, puis ça se ferait forcément au détriment d'autres, donc ça ferait augmenter les prix, etc. Enfin bref. Alors que bah, Intel fabrique l'essentiel, eux, de leurs microprocesseurs. Et donc, alors ils ont hésité hein, à arrêter et à devenir comme la plupart des autres. Une entreprise dite fabless, hein, qui va sans usine, qui va concevoir mais pas fabriquer des microprocesseurs. Et puis finalement, ils vont décider au contraire de mettre le paquet, entre guillemets, sur les investissements en production pour bah, réussir à se remettre au niveau des sous-traitants taïwanais, notamment, hein, qui avaient pris de l'avance. Alors non seulement leur domination sur les microprocesseurs n'a jamais été remise en cause, mais en plus ils l'ont étendue vers la partie haute de la gamme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les stations de travail, donc des ordinateurs surpuissants, survitaminés en quelque sorte, et puis les serveurs. D'ailleurs, c'est assez spectaculaire, hein, puisque ils font tellement peur au début des années 2000, que quand Intel annonce qu'ils vont sortir un microprocesseur pour serveur, immédiatement, ça crée une série d'effets en chaîne. D'abord, Digital Equipment, qui était le numéro un des mini-ordinateurs, donc c'est la gamme encore au-dessus des stations de travail, va carrément céder sa branche microprocesseur. Ils faisaient leur propre microprocesseur, ils vont arrêter. Et puis Sun, qui concevait, même si c'est une architecture ouverte, ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, des microprocesseurs dits Spark, eh bien, annonce que ces stations de travail, puisque c'est sur ce créneau-là qu'ils étaient positionnés, serait compatible avec le futur microprocesseur d'Intel qui s'appelait donc Litanium. Alors, ils n'ont pas abandonné pour le coup leur gamme de microprocesseurs, mais ça a laissé planer le doute, hein, puisque ils préparaient le fait que qu'ils pourraient abandonner, puisque de toute façon leur station serait compatible aussi avec les microprocesseurs Intel. Et puis, ce créneau-là va encore augmenter d'un cran quand va se développer fortement ce qu'on appelle l'informatique massivement parallèle, et dont les volumes vont exploser avec l'intelligence artificielle, parce que nos petits outils sympathiques, ChatGPT, tout ça, le problème c'est que de l'autre côté, pour traiter les données, ça demande des puissances informatiques absolument gigantesques. Donc c'est pas très bon écologiquement, hein, de ce point de vue-là. Mais du coup, on fait des ordinateurs dans lesquels vous allez avoir, par exemple, 50 000 processeurs. Et alors, au départ, sur de l'informatique massivement parallèle, c'était des dizaines de milliers de microprocesseurs. Donc, typiquement, on pouvait introduire des Itanium. Aujourd'hui, massivement, pour des raisons techniques que j'ai à peu près comprises, mais avec lesquelles je ne vais pas vous embêter parce que il y en a déjà beaucoup. Il se trouve que les processeurs graphiques sont plus performants pour faire des calculs massivement parallèles. Et du coup, finalement, c'est à la fois un nouveau segment qui s'est ouvert et en même temps, ça a créé une concurrence inattendue, hein, qui a d'abord pas mal profité à AMD, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, et avec ses cartes graphiques, mais qui a surtout profité aux grands concurrents d'AMD. Les pauvres, ils sont toujours numéro 2. Ils sont derrière Intel sur les microprocesseurs type CPU, et ils sont derrière Nvidia sur les processeurs graphiques. Et donc, et c'est à tel point que, je crois que je ne vous ai pas mis les courbes, parce que là aussi, je n'ai pas voulu non plus vous saturez, mais pour la première fois en 2023, le chiffre d'affaires et les bénéfices d'Nvidia ont dépassé ceux d'Intel. Donc là, pour le coup, c'était la grosse surprise. Puis il continue à une croissance. Alors, il y a peut-être un côté bulle où à un moment donné, on va avoir. Voilà, où les grands qui mettent en place leurs infrastructures informatiques pour faire de l'IA, les auront mises en place et auront moins besoin de nouveaux investissements. Donc, il est probable qu'à un moment donné, il y aura un petit creux pour Nvidia. Mais il n'empêche que c'est extrêmement spectaculaire. Et donc, d'un côté, vous voyez, Intel a toujours 80% à peu près du marché ça doit être même plus proche de 85% du marché des microprocesseurs pour micro-ordinateurs. Et de l'autre côté, en fait, ils ont rarement été aussi fragiles. Enfin, Si, à la fin des années 70, et au début des années 80, quand il y a eu leur gros problème de compétitivité sur les mémoires. Mais ça faisait très longtemps qu'ils étaient finalement pas en si bonne posture. Puis alors, il y a une autre chose qui va jouer contre eux, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que les ventes de smartphones ont explosé. Et puis, les tablettes sont arrivées et constituent quand même des concurrents pour les portables les plus légers. Et finalement, Intel n'était pas très bien préparé à un tel virage, puisque très obsédés, notamment par la loi de Moore, l'un de leurs cofondateurs, ils ont toujours structuré leur R&D fondamentalement sur l'augmentation des performances pures des microprocesseurs. Et beaucoup moins vers leur consommation d'électricité. Alors évidemment, ils ne sont pas non plus totalement aveugles, hein. Ils vont quand même, à un moment donné, sortir des gammes de microprocesseurs, moins consommatrices d'électricité parce que la majorité des ordinateurs vendus à un moment donné deviennent des ordinateurs portables. Là encore, au début, les ordinateurs portables, c'était un segment assez limité, hein. Mais leur point de repère, c'est l'ordinateur portable classique, hein, ce qu'on appelle des notebooks. Et non pas des équipements très légers, type tablette ou smartphone, ni même les plus légers des ordinateurs. Il y a un point de repère que j'ai pris qui peut vous paraître un peu anecdotique, mais je trouve, moi, qu'il est assez significatif. Il se trouve que pour actualiser un cas pédagogique que j'avais fait, je me suis plongé dans pas mal de rapports annuels d'Intel, et j'avais remarqué que, de toute façon, dans tous les rapports, dans tous les rapports annuels, notamment des entreprises cotées aux États-Unis, vous avez des rubriques qui sont assez incontournables. Ça a l'air d'être assez balisé, hein, ce type de document. Et donc, ils citent leurs concurrents, leurs principaux concurrents. C'est seulement en 2007 que dans les concurrents, ils citent ARM. Or, ARM, leur particularité, c'est là aussi ils conçoivent des technologies et des microprocesseurs, ils ne les fabriquent pas, mais la particularité des architectures dites ARM, c'est justement leur faible consommation. C'est pour ça que dans les téléphones, par exemple, pratiquement tous les téléphones, peut-être tous, je ne sais pas, embarquent des technologies ARM. Parce que c'est ce type-là de microprocesseur qui est le moins gourmand. Si vous mettiez un microprocesseur de PC dans votre smartphone, la batterie durerait pas très longtemps. Donc je trouve assez significatif, hein, le fait que pendant longtemps, ils n'ont même pas ce concurrent-là qui faisait des microprocesseurs qui consommaient peu, c'était un concurrent négligeable, et c'est seulement en 2007 qu'ils le citent. Et en 2008, vous voyez qu'on est bien dans la... qu'ils vont lancer leur premier microprocesseur qui est vraiment conçu pour... consommer le moins possible. Alors, d'ailleurs, dans un premier temps, très clairement au détriment de la performance. Alors, vous voyez au passage, vous vous souvenez peut-être que le 4004 avait 2300 transistors. Là, je vous dis que quand même, ils font un vrai recul en termes de performance parce qu'il n'y en a que 47 millions. Voilà. Mais il faut dire que la même année, leur microprocesseur haut de gamme en avait plus de 700 millions. Et puis, en 2013, il y a vraiment là des processeurs en plus tout en a qui sont vraiment faits, alors là, y compris pour l'Internet des objets, etc. Donc là, c'est vraiment des microprocesseurs qui sont plus du tout conçus pour l'informatique, mais qui sont conçus pour les équipements mobiles. Mais voyez que ils ont quand même mis du temps. Là, ils ont montré une certaine rigidité, finalement, face à ce changement fondamental de l'orientation des marchés. Et bah, du coup, sans doute, à un moment donné, un petit peu, malgré tout, déstabilisé, ils ont cherché plutôt des marchés de diversification à un moment donné. Donc, ils ont fait des acquisitions dans le logiciel, par exemple, avec McAfee, et puis plus dans leur métier d'origine, dans le domaine des composants. De calcul, etc., mais pour embarquer, voilà, l'électronique embarquée. Donc voilà pour Intel, et je vous dis, c'est assez étonnant de voir que maintenant le chiffre d'affaires d'Nvidia est supérieur à celui d'Intel. Je vous avoue que même en sachant que c'était en train de décoller les puces graphiques, je n'aurais quand même pas fait ce pari-là. Et l'écart va sûrement se creuser en 2024, hein, apparemment. Donc voilà pour Intel, et donc il ne nous reste plus que nos amis de chez Netflix, qu'on a laissés après avoir écrasé Blockbuster, mais donc à ce moment-là, ils sont encore des loueurs de DVD. Et alors, là où... C'est extrêmement, enfin, pour moi intéressant. Décidément, j'aurais beaucoup utilisé ce terme-là. En fait, j'essaye de faire du. Comment on appelle ça? J'essaye de faire passer des messages subliminaux à force de répéter que c'est intéressant. Fait, j'avoue, c'est une méthode pour essayer de vous faire penser que le cours est intéressant. Bon, trait de plaisanterie, d'ailleurs pas forcément super bonne, mais c'est pas grave. On a vu hein, que avec notamment Kodak et Polaroid, que transformer en profondeur un business model, c'était très très compliqué et que beaucoup d'entreprises disparaissaient ou s'affaiblissaient considérablement faute de d'avoir réussi à le faire de façon suffisamment rapide et radicale. Et ben là, on a un joli contre-exemple, hein, puisque voilà, Netflix alors, a continué très longtemps. Hein, je me demande, c'est pas l'année dernière seulement qu'ils ont arrêté leur activité de location de DVD. Enfin, c'est tout récent. Mais c'était devenu totalement marginal. Hein. Donc on voit bien qu'en termes de business model, on peut dire que Netflix n'est plus une entreprise de location de DVD. Et alors ce qui est intéressant, décidément, dans ce cas-là, c'est que ça s'est fait de façon finalement très soft, sans grosse crise, et progressivement. Alors, ça peut s'expliquer en partie par des caractéristiques qu'avait l'entreprise dès le départ. C'est-à-dire que j'avais insisté dessus hein, quand je vous ai raconté la première phase de l'histoire de Netflix. Hein, j'avais bien insisté sur le fait que bah, tout, très vite, il y a eu des algorithmes de préconisation auprès des consommateurs, que ils avaient mis en place des logiciels d'optimisation de la logistique, etc. Enfin bref, qu'il y avait dès le début une forte composante informatique chez Netflix. Elle avait aussi établi, dès qu'elle est devenue une grande entreprise de location de DVD, bah forcément, elle achetait des quantités importantes de DVD, donc elle avait des relations privilégiées avec les studios de cinéma. Elle avait tous les contacts, toutes les entrées nécessaires, ce qui évidemment est très utile pour ce qu'elle va devenir par la suite. Et puis par ailleurs, le développement dans un premier temps de la vidéo à la demande, donc ça veut dire qu'on télécharge la vidéo et on la regarde après, ou du streaming, donc ce qu'on connaît principalement aujourd'hui, les acteurs du secteur savaient que ça allait arriver. Ils ne savaient pas quand, mais ils voyaient bien que les ordinateurs étaient de plus en plus répandus, de plus en plus puissants, et surtout que les liaisons Internet étaient de plus en plus performantes. Et que donc, forcément, ce qui était arrivé, que la dématérialisation qui était arrivée au niveau de la musique allait logiquement arriver. Il n'y avait pas de raison de penser que ça n'arriverait jamais au niveau de la vidéo. Et donc, même Blockbuster, qu'on a plutôt caractérisé du coup comme une entreprise qui avait évolué doucement, etc., même Blockbuster, souvenez-vous, hein, va avoir une expérience alors malheureuse. Ils ont mal choisi leur partenaire, hein, va avoir une expérience dès 2000-2001, je crois, en termes de vidéo à la demande, voire et puis même par la suite de streaming. Alors, à une époque où streaming disait forcément qualité d'image dégradée, mais donc on voit que même Blockbuster, par exemple, se prépare à cette mutation. Donc voilà, d'un côté, le fait que ça soit déjà arrivé pour la musique fait que ils s'y attendent. D'autre part, vous voyez qu'ils ont déjà des atouts qui seront très utiles dans leur futur métier. Et donc, la manière dont ils vont procéder, c'est assez simple, c'est qu'en fait, ils vont lancer les nouvelles activités sans du tout remettre en cause les anciennes, qui vont vraiment les lancer en parallèle. Sans faire dans un premier temps, des investissements gigantesques, puisque il y a un peu cette idée, on va d'abord expérimenter, et puis après, on va monter en échelle progressivement au fur et à mesure que la vidéo à la demande, puis le streaming vont se substituer, puisqu'ils savent, enfin, ils sont presque sûrs qu'un jour ou l'autre, ça se substituera au support type DVD. Et on voit bien que du coup, ils ont d'un côté des activités d'exploitation, c'est la location de DVD, et au début, c'est plutôt des activités d'expérimentation pour acquérir des nouvelles compétences, donc plutôt des activités d'exploration, ce qui devrait vous rappeler le début du cours. Et alors, l'une des choses qu'ils vont réussir assez bien à faire, c'est tout en les séparant structurellement dans l'entreprise, réussir quand même à faire en sorte d'exploiter les synergies entre les deux. Hein, et donc ça, c'est vraiment typique de l'entreprise qu'on appelle ambidextre parce qu'elle sait gérer à la fois l'exploitation et l'exploration. Mais alors, ça correspond même à la définition plus restrictive qu'avaient donné Tuchman et O'Reilly au départ quand ils ont proposé cette expression d'entreprise ambidextre. Hein. L'article, je vous le mettrai. Ça peut toujours être intéressant. Il est notamment là. Enfin, il est assez facile à lire. Hein. C'est pas un article super théorique, super compliqué. Et puis les deux études de cas, surtout la première, sont assez intéressantes, je trouve, même s'ils sont un peu anciennes. Si maintenant qu'on a fait ce mini rappel théorique, on va simplement vous voir comment ça s'est passé concrètement chez Netflix. Donc en fait, ils vont étendre peu à peu à partir de leur cœur de métier, hein, en s'éloignant de plus en plus de ce cœur de métier, mais par petits sauts. Du coup, il n'y a jamais eu un basculement tout d'un coup de leur business model. Et puis par ailleurs, il y a certains aspects de leur business model qui, eux, vont rester très stables, puisque vous vous souvenez hein, ils ont basculé assez tôt vers un modèle d'abonnement où on avait le droit de garder en permanence 3 DVD chez soi en échange d'un abonnement mensuel. Vous voyez bien que l'abonnement mensuel, il est toujours là. Et puis, cette façon, en utilisant notamment ces fameux algorithmes, hein, de fidéliser autant que possible ces utilisateurs, et avec en recherchant une croissance agressive de cette base d'utilisateurs, sachant que de toute façon, même avec le système des DVD, ils ont des coûts fixes très élevés, parce qu'ils ont forcément une bibliothèque de DVD extrêmement étendue, et donc ils ont sûrement des millions et des millions de DVD, hein, donc si derrière la base d'utilisateurs diminue, on voit bien que ça pose de sérieux problèmes. Parce qu'ils sont quand même toujours obligés d'acheter les nouveaux films, hein. Ils ne peuvent pas rester avec leur bibliothèque d'origine. Mais par ailleurs, ça va devenir d'autant plus important parce que avec la location de DVD, vous avez quand même une augmentation des coûts qui est presque proportionnelle, pas tout à fait, mais presque proportionnelle à l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Plus vous avez d'utilisateurs, plus il vous faudra de DVD. Avec la vidéo à la demande puis le streaming, là non. Alors, il y a quand même des petits sauts en ce sens que à certains moments, il faut vous acheter des nouveaux serveurs parce que vos serveurs n'ont plus la puissance nécessaire pour faire face. Mais il y a quand même, c'est encore plus des coûts fixes et donc avec un effet important quand la base d'utilisateurs augmente. Et puis, le fait qu'ils aient des millions d'utilisateurs au moment qui font de la location de DVD au moment où ils lancent leurs nouvelles activités, c'est un vrai atout parce qu'en fait, ils vont pouvoir, dans un premier temps, associer la nouvelle activité à l'ancienne, l'intégrer dans les abonnements. Et puis, quand le nombre de personnes qui utiliseront les nouvelles activités sera suffisamment important, ils vont couper. Et du coup, ils vont séparer l'abonnement, les deux abonnements, si bien que ça va devenir autonome. En tout cas, et puis même, ne serait-ce qu'en termes de promotion. Hein, vous voyez qu'ils peuvent communiquer, ils ont les coordonnées, les préférences en termes de films, etc., de millions d'utilisateurs, ce qui quand même facilite largement la mise en œuvre de nouvelles activités qui toutes restent dans le domaine de la diffusion de films dans un premier temps, puis de séries. Alors, quelles ont été les grandes étapes? D'abord, donc en 2007, ils lancent un service de vidéo à la demande. Donc là, on télécharge la vidéo. Au passage, s'était pas étendu à l'international tant qu'ils étaient un loueur de DVD, parce que vous voyez bien que déjà, ils avaient quadrillé le territoire américain avec des entrepôts pour pouvoir faire en sorte que les DVD arrivent rapidement. Quadriller le monde, c'est tout de suite beaucoup plus cher, hein. Donc, on voit bien que logistiquement, c'est vraiment compliqué, sans compter les problématiques de date de sortie de film, etc., différents entre les zones. Donc, par contre, à partir du moment où on vient télécharger sur des serveurs, ça facilite largement les choses. Donc en 2010, il commence à se développer à l'international. C'est aussi en 2010 qu'il lance le service de streaming, qui dans un premier temps est associé à l'abonnement location de DVD. À partir de 2011, on voit qu'ils vont davantage mettre l'accent sur le streaming, parce que l'un des avantages d'une série, c'est que, outre le caractère un peu addictif, hein, c'est aussi que, en termes de poids en gigaoctets, comme les séries sont plus courtes que les films, c'est aussi plus léger, sur des serveurs, etc. Donc ça leur permet d'augmenter considérablement leur bibliothèque, sans avoir le même effet que s'ils augmentaient autant leur base de films. Et la même année, il sépare l'abonnement streaming de l'abonnement location de DVD. Donc à partir de là, on voit bien qu'il y a La vache à lait, location de DVD qui est bien en place, qui est rentable, mais pas extraordinairement, mais bon, qui est rentable et qui permet d'éviter des à-coups, de baisse de chiffre d'affaires parce qu'on a basculé d'un service à l'autre. Et puis de l'autre, on a l'abonnement streaming qui va monter en puissance. Et puis, c'est aussi dans les années qui suivent qu'ils vont commencer à produire eux-mêmes leurs propres séries. Et du coup, bah, si on regarde la manière dont ça s'est fait, hein, dans la substitution s'est effectuée, bah, on a bien une transformation radicale et en même temps, bah, il n'y a jamais eu de grand à-coup. Alors, un petit graphique pour illustrer ça. Donc là, vous avez l'activité qui baisse, c'est la location de DVD. Celle qui est déjà devant, vous voyez, en 2011, le streaming a déjà pratiquement le double d'utilisateurs que la location de DVD. Hein, donc ça a tout de suite eu du succès. Et puis, bah, on voit que ce qui va alimenter beaucoup la croissance, c'est l'internationalisation, même si bah, ils continuent à gagner des nouveaux abonnés streaming aux États-Unis jusqu'en 2018. Et puis, bah, le nombre d'abonnés DVD bah, diminue tranquillement chaque année et devient marginal dans leur chiffre d'affaires. Et si on regarde maintenant bah, justement leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices et leur nombre d'abonnés, alors les bases ne sont pas les mêmes parce que sinon il y aurait une toute petite courbe en bas, puis une très, très haute. Donc pour pouvoir un peu comparer les courbes, je les ai mises avec des unités différentes. Vous voyez que c'est un peu plus irrégulier côté du résultat net, ce qui n'est pas illogique. Hein. Et puis vous avez cet effet hein, où quand vous passer une certaine base à un certain nombre d'utilisateurs, bah finalement, vos coûts n'augmentent pas du tout proportionnellement. Donc évidemment, ça crée cette croissance assez extraordinaire quand même du bénéfice sur la fin des années 2010. Alors, on voit par ailleurs hein, un petit peu l'effet de la concurrence beaucoup plus sévère maintenant que. Parce qu'évidemment, le succès de Netflix a fait quelques envieux et a suscité quelques vocations. Donc, bah, Disney, Paramount, etc., sont arrivés un par un sur le marché, ce qui pèse quand même un petit peu. Et alors, bah du coup, comme on a un bel exemple de transformation de business model, je me suis dit qu'on pourrait avoir un sujet super sympa là-dessus. Donc voilà, petit sujet numéro 5, avant-dernier, en vous appuyant sur l'exemple de Netflix, mais aussi sur d'autres exemples. Alors, vous pouvez tout à fait prendre des échecs. Hein, et non, enfin, l'idéal, c'est d'ailleurs de comparer un ou deux succès à un ou deux échecs pour essayer d'identifier ce qui fait la différence entre les deux. Donc voilà, et ça, c'est à rendre pour le 22, puisque bah, la précédente était à rendre pour le 15, la précédente pour le 8. Enfin voilà, à chaque fois, j'ai mis une semaine d'écart. Alors, pour terminer le cours, quelques diapositives reprenant un peu de recul quelque part par rapport à ce qu'on appelle le web 2.0, puisque c'était quand même aussi l'idée du. Alors, on l'appelle d'ailleurs maintenant web 3.0, il y a des nuances entre les deux, mais voilà, moi. Je pense qu'il y a quand même deux grandes phases et que le Web 3.0, c'est un côté un peu artificiel. Enfin, parce qu'après, il y a un peu une surenchère où on va identifier telle différence et moi, je vais dire, c'est le Web 5.0, ça. Finalement, bah, à la fin des années 90, on pensait que le management allait être bouleversé par l'arrivée de l'Internet et. Bah, on ne peut pas dire que ça a été vraiment le cas. Il y avait des livres qui s'appelaient le e-management, etc. Bon, il y a une sorte de vague autour de ça. Alors du coup, Web 2.0, est-ce que bah, ça va faire la même chose, c'est-à-dire on se dit ah ça va tout transformer, puis ça va faire, en fait ça fait pchit. Ou est-ce que y a des différences plus importantes? Alors après, je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul, donc on ne va pas le traiter encore cette année, mais évidemment, on se posera la même question pour l'intelligence artificielle, hein, c'est clair. Les changements risquent d'être quand même un peu plus profonds. Alors, ce qu'on peut dire sur le web 2.0, c'est-à-dire pour faire simple, hein, ce qu'on appelait le web 1.0, c'est un web où l'utilisateur est plutôt passif. C'est-à-dire, c'est plutôt les sites web, vous voyez. Et donc, il y a des entreprises ou des particuliers d'ailleurs, mais qui vont mettre du contenu en ligne. Et puis, il y a d'autres qui vont les lire. Mais vous voyez, ils ne vont pas intervenir sur le contenu. Le web 2.0, c'est un web dans lequel les utilisateurs interviennent directement. Hein, c'est Wikipédia, l'encyclopédie qui est faite par ses utilisateurs. Tous les systèmes. Alors, là encore, il ne faut pas caricaturer, c'est tous les réseaux sociaux, etc. Les blogs également. Là encore, des fois, on a tendance à simplifier un peu, hein, les forums de discussion, qui sont quand même des ancêtres de là où les utilisateurs sont actifs, existaient avant même le web. Existait dans l'Internet d'avant le web. Oui, il peut avoir un effet. Peut-être le plus évident et visible, c'est que y a eu dans ce domaine-là aussi des plateformes de mise en relation. Hein, ça a été aussi une des grandes caractéristiques du web 2.0, ça, les plateformes dites biface. Il y a des plateformes, il y en a d'autres, mais la plus célèbre, c'est Inocentive, qui aide les entreprises dans leur ouverture des processus d'innovation, hein, notamment les mettant en relation avec des experts pertinents. J'avais reçu, par exemple, cet email. Sans doute parce que j'ai une adresse universitaire, hein, donc vous voyez, donc là c'est pas Innocentive, c'est Ipios, ils me disent que ils ont visiblement un client qui cherche des éléments technologiques sur les technologies photovoltaïques du futur et qui est prêt à payer 3 000 euros pour toutes les idées intéressantes qui seraient. Voilà. Donc là, c'est un exemple typique, hein, de mise en relation potentielle d'experts et d'entreprises qui cherchent à faire là massivement, en l'occurrence, de l'open innovation. De la même manière, ça va faciliter aussi parce que y a tous ces outils équivalents à des réseaux sociaux dans lesquels on peut échanger directement, parce que aussi les clients vont mettre des avis, etc. Donc ça va faciliter une tendance que Von Hippel avait identifiée il y a très longtemps, hein, dès les années, je crois que son premier ouvrage sur l'implication des clients dans le processus d'innovation date de 1988. Mais ça rejoint tout à fait ça, ça facilite, hein, l'intégration des clients dans le processus. Typiquement, Lego a beaucoup utilisé ça, a une vraie plateforme dans laquelle il propose à des particuliers, des individus, de proposer des idées de nouveaux jeux Lego. Après, il y a des systèmes de vote, etc., qui filtrent les idées. Et puis, le vainqueur du concours, il a une récompense, évidemment. Son idée de jeu, elle est mise en œuvre. Ça va donner beaucoup d'importance aux externalités de réseau, peut-être encore plus. Déjà, le web 1.0 avait fait des externalités de réseau un élément absolument crucial, mais le web 2.0 encore plus. Parce que si on regarde bien, on pourrait dire qu'il y a, du point de vue de l'innovation, hein, ce n'est pas les seules caractéristiques, mais il y a un peu deux éléments qui vont avoir une influence forte. Il y a donc le fait que on n'est plus passif dans le web 2.0 et donc il y a plein d'espaces où les clients et les consommateurs peuvent s'exprimer. Évidemment, ça crée des externalités de réseau direct, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer là où on peut se faire entendre. Tiens, je lisais un court article ce matin, je crois, disant que face au, disons, au positionnement assez, je crois qu'on peut dire extrême sans prendre position trop, d'Elon Musk par rapport au réseau X, il y a quand même de plus en plus de médias et de personnes qui ch cherchent une alternative. Le problème, c'est que si vous êtes sur X, vous avez plein d'abonnés et vous avez beaucoup de monde sur le réseau. Si vous basculez sur un réseau qui est où il y a beaucoup moins de monde, évidemment, ce que vous allez écrire aura beaucoup moins de portée. Là, on voit bien le phénomène des externalités de réseau direct. Et là, donc, ce que je lisais, c'était qu'il y avait un réseau alternatif qui s'appelle Blue Sky, je crois, qui vient de dépasser les 20 millions d'utilisateurs. Alors, c'est pas beaucoup, hein, à côté de X, mais apparemment, il y a quand même une croissance assez forte. Et puis, d'autre part, un autre phénomène, c'est qu'avec les smartphones, nouvelles versions, sont apparues aussi ces plateformes où on achète des applications et où la valeur du téléphone, elle vient parfois autant de ce qu'on va pouvoir mettre nous-mêmes dedans que dans ce qu'il y a dans l'appareil d'origine. Évidemment, ces plateformes d'applications vont être source de beaucoup d'externalités de réseau indirectes, puisque concrètement, si vous êtes éditeur d'une appli pour smartphone, vous allez généralement faire une version Android, une version iOS, parce que c'est les deux grandes plateformes où vous allez pouvoir en vendre des quantités importantes. Donc on a bien ces phénomènes où, c'est aussi pour Android et iOS qu'il y a le plus d'applications. Vous voyez, on retrouve bien nos cercles vertueux habituels. Et puis, qui dit espace d'expression des consommateurs, dit aussi le fait que, on va par exemple de plus en plus chercher des avis avant d'acheter un produit, et seuls auront des avis les produits qui se vendent relativement bien. Et donc, on voit que derrière, et puis on en parlera beaucoup plus dans les réseaux, etc. Si bien que, y a des produits qui d'autant plus passeront un peu inaperçus, et du coup, on a cet effet où l'information va se concentrer sur quelques-uns. Et puis ça va venir se combiner avec les externalités de réseau direct, puisque, par exemple, j'imagine que si à un moment donné, vous allez chercher une application sur le marché Android, vous n'allez pas passer en revue il y a peut-être 3 millions d'applications qui sont disponibles sur la marketplace, comme on dit. Donc ça veut dire que vous allez vous concentrer sur ceux qui apparaissent en premier. Et donc là, on a bien une combinaison d'externalités de réseau direct et de rendement croissant dans l'information. Et du coup, et ce sera notre slide final, à un détail près pour la partie vraiment court à proprement parler. Évidemment, qui dit externalité de réseau forte dit une probabilité un peu plus forte de système où, comme on dit, le gagnant emporte tout, hein, où on se retrouve avec une seule entreprise ultra dominante ou deux ou trois entreprises qui dominent, mais pas beaucoup plus. Et c'est aussi pour ça que dans le cours, j'ai quand même pas mal insisté sur les standards technologiques. À la fois, quand on est dans des domaines comme l'informatique, les télécoms, etc., c'est de toute façon directement des aspects qui sont importants. Mais si je l'ai fait, c'est aussi parce que dans ce domaine, Finalement, on a des mécanismes qui sont assez proches des standards technologiques qui vont s'appliquer cette fois à l'économie de service qui est devenue dominante aujourd'hui. Donc, vous voyez, même quand il n'y a pas de standard technologique au sens où on l'entend, comme peut être le DVD ou le magnétoscope VHS, néanmoins, il y a des effets qui sont assez comparables, avec à la fin, encore une fois, une ou deux entreprises qui vont être très dominantes, comme dans le cas où à la fin, il y a un standard qui s'impose. Alors, il y a plus d'interconnexion parce que, par exemple, on voit bien, hein, vous voyez, quand vous allez sur un site, on va vous dire, vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, avec votre compte Facebook, etc. C'est parce que Google et Facebook sont très largement répandus. Donc, on voit l'effet des externalités de réseau, mais du coup, il y a quand même des interconnexions qu'il n'y a pas forcément entre les standards technologiques. Et puis, du coup, ça, c'est à prendre en compte quand on participe à des batailles de standards, mais aussi dans des situations qui sont proches en termes de services. Et ça, même quand on est simplement un suiveur et qu'on est, par exemple, n'importe quelle entreprise de base et qui se dit sur quel réseau je vais. Donc, par exemple, celui que j'ai pris juste avant, hein, est-ce que je vais sur Blue Sky? Parce que peut-être qu'en termes d'image, c'est plus consensuel, mais en même temps, il n'y a pas encore grand monde. Donc, est-ce que je fais le pari que là, les externalités de réseau sont lancées, etc., et que donc, là, ça va croître? Ou alors, je vais quand même sur X parce que c'est là qu'il y a plein de monde. Vous voyez, donc, même pour ce type de dilemme-là, c'est un peu comme le type de dilemme qu'a Toshiba en disant ah bon, mon standard n'a pas marché du tout. Est-ce que je choisis le camp VHS ou est-ce que je choisis le camp Betamax? Choisir d'aller sur X ou sur Blue Sky, c'est un peu le même type de pari. Et puis, de plus en plus, pour les innovateurs, un raisonnement en termes d'écosystème. Il y a des définitions légèrement différentes d'écosystèmes d'affaires, d'écosystèmes d'innovation, d'écosystèmes entrepreneurial. Mais donc là, on est plutôt sur la logique de l'écosystème d'affaires, c'est-à-dire que ça va être l'ensemble des organisations, mais notamment des entreprises, qui sont importantes pour votre survie comme dans l'écosystème, même si elles n'ont pas forcément des relations directes avec vous. Et donc on peut citer justement, par exemple, les éditeurs d'applications. Si un jour, les éditeurs d'applications sont tellement fâchés par une mesure prise par Apple ou par Samsung par Google pardon, pour Android, elles peuvent décider de ne plus éditer d'applications pour la plateforme en question. La plateforme en question serait mise en danger, alors même que l'éditeur de logiciels n'est pas un fournisseur, ni un client, ni un concurrent d'Apple. Donc du coup, quand on lance un produit, par exemple, si vous lancez une console de jeu, vous allez forcément essayer de nouer des partenariats avec des éditeurs de logiciels pour qu'il y ait des jeux un peu emblématiques qui sortent sur votre nouvelle console. Donc vous voyez, c'est typiquement un raisonnement en termes d'écosystème. On avait déjà évoqué, alors à la fois le terme, quoique peut-être pas coopétition, hein, c'est donc le mélange de coopération et de compétition, mais on avait, ça je le sais, évoqué le cas où quand on est un acteur dominant, d'un côté en cas de bataille de standard, on a plus de chances de gagner, et donc ça peut attirer des partenaires parce qu'on préfère miser sur celui qui va gagner que sur celui qui va perdre. Mais en même temps, des fois que vous êtes tellement dominant que vous faites peur aux autres, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, oui, d'accord, le standard va peut-être l'emporter, mais en fait, toute la valeur va aller dans les poches de cette entreprise-là. Et voilà, vous avez cité l'exemple d'IBM quand ils ont retenté de reprendre la main sur certaines technologies et où les cloneurs de PC vont se mettre tous ensemble, enfin les principaux ensemble, pour proposer une alternative. parce que il voulait pas redonner la main à redonner la domination sur le système à IBM. Enfin, bon là c'est un peu moins structurel et stratégique, mais c'est important quand même, hein. Quand on lance une innovation, il y a une façon différente de faire de la communication. D'abord, il y a ce fameux buzz marketing. Alors, il pouvait déjà exister avant, mais on voit bien que les réseaux sociaux donnent un écho potentiel qui n'a rien à voir avec ce qui pouvait exister avant. Par contre, on a aussi à côté un vrai problème pour les entreprises de maîtrise de la communication, hein, dans un monde où il y a à peu près autant de nouvelles fausses que de nouvelles vraies qui circulent et où, en plus, il a été montré que les nouvelles fausses pouvaient avoir plus d'impact que les nouvelles vraies. On voit bien que c'est un vrai problème de maîtrise, hein, pour les entreprises. Alors, je ne vais pas vous la passer, surtout vu l'heure, mais je vous mettrai un lien vers une petite vidéo. En plus, c'est pour me voir. Mais où y a, donc, je suis interviewé sur Xerfi sur une entrée de l'encyclopédie de la stratégie qu'on avait coécrit avec deux collègues et qui porte justement sur ces problématiques de maîtrise de la communication. Donc, du coup, je ne les développe pas davantage. Et puis parfois, pour montrer un petit peu le lien entre ces problématiques stratégiques, tactiques et organisationnelles, du coup, ça peut créer une forme de dilemme. Alors, en général, quand on dit intégration, différenciation, c'est dans le type de structure qu'on utilise. Mais ici, c'est plus dans le profil, on va dire, de ceux qui font la com. C'est-à-dire que d'un côté, c'est plutôt des profils spécialisés qui vont être à l'aise dans le monde des réseaux sociaux, etc. On voit bien que ce n'est pas forcément les directions de la com traditionnelle qui sont les meilleures à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'on va embaucher des profils un peu spécifiques pour faire ça. Donc ça, c'est le côté différenciation. On ne va pas communiquer de la même façon sur les réseaux sociaux et sur la plaquette institutionnelle. Mais en même temps, évidemment, il ne faut pas non plus que l'image véhiculée, du coup, soit trop distordue entre les deux. D'où le dilemme avec l'intégration. Donc il faut quand même créer des mécanismes de coordination entre ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux et ceux qui font la com institutionnelle classique. Donc voilà quelques éléments qui ressortent des évolutions récentes. Et encore une fois, j'ai laissé de côté l'IA, mais ça risque de prendre de plus en plus de place dans les cours des années à venir. Et donc un petit dernier sujet intermédiaire. Donc je viens d'évoquer les questions d'écosystème d'affaires. Et vous irez chercher des infos sur ce que c'est qu'un écosystème d'affaires, ce que c'est qu'un écosystème entrepreneurial, ce que c'est qu'un écosystème d'innovation. Et puis, à partir de ces éléments un peu théoriques, vous allez essayer de tirer des enseignements pratiques pour conduire un projet d'innovation, que ce soit un projet de création d'entreprise ou un projet d'innovation plus classique. Voilà. Alors là, je n'ai pas mis une semaine après parce que je trouvais quand même que le 29 décembre, ça aurait été un peu cruel. Donc là, j'ai sauté une semaine. Je dis, ils vont profiter un peu des fêtes quand même, mes étudiants. Et donc, j'ai mis pour le 5 janvier. Et puis, par ailleurs, vous avez un travail. Donc ça, c'est les travaux intermédiaires. Vous avez par ailleurs une étude de cas à rendre. Donc, pour vous donner juste les éléments essentiels, c'est choisir soit une entreprise, soit une innovation, et analyser soit l'innovation, soit son système d'innovation. Enfin, analyser l'innovation, son succès, son échec, etc., si c'est une innovation, et analyser le système d'innovation d'une entreprise si vous avez choisi une entreprise. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous laisser juste avec cette info-là, enfin pour ce soir, si, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Mais je vous donnerai pas mal de précisions, c'est-à-dire autant je vous donne volontairement assez peu d'éléments sur ces sujets-là. Pour vous laisser quand même pas mal de liberté, c'est normal, dans un cours d'innovation. Autant, comme c'est quand même votre travail principal qui compte pour pour une partie plus importante de la note que les travaux intermédiaires, etc. Bah là, pour le coup, je vous donnerai quand même plus d'éléments, des conseils, une suggestion qui n'est pas obligatoire par contre, hein, mais une suggestion de plan qui vous permet aussi de voir bah, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, bref, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça. Je vous donne pas la date précise tout de suite parce que bah, ça dépend justement de quand j'aurai tout mis en ligne. Mais de toute façon, ce sera plutôt vers la fin janvier. C'est-à-dire que là, ce sera pas juste, comme c'est un peu plus lourd comme travail demandé, ce sera pas juste une semaine après le dernier, après le sujet numéro 6. Donc vous aurez plus de temps derrière pour réaliser ce devoir final. Voilà. Et donc ça, c'est la fin. On a donc terminé nos classes virtuelles de management de l'innovation. Bon, après, vous pouvez bien sûr tout à fait, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des questions, bah de toute façon, nous, on va se revoir dans les permanences mémoire, entrepreneuriat, et puis vous me reverrez un peu aussi dans le cours de gestion d'un projet innovant au XXIe siècle. Donc, si vous voulez me poser des questions en direct, ça sera toujours possible. Et vous pouvez aussi les poser par email. Donc voilà, ça ne veut pas dire que l'interaction entre nous, même sur ce cours-là, s'arrête. Et puis, bah, d'autre part, voilà, vous allez le contenu qui manque encore va être mis en ligne aussi vite que possible. Et donc, vous verrez que sur certaines parties, il y a quand même des compléments que je mets. Hein, je ne mets pas juste mes slides. Donc, même si vous avez suivi les cours, etc. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil quand même à ce qu'il y a sur le e-campus, parce qu'il y a des petites choses en plus. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions de votre part, je vais vous souhaiter une bonne soirée et un bon week-end. Et puis, on se retrouve bientôt.